Bonjour. Aujourd'hui, une mission spéciale sur Couture-sur-Garonne avec Jean-Michel Moreau, maire, qui nous présente sa commune, mais également Dame Garonne, avec ses sauveteurs, son nouveau musée Fou de Garonne et le Festival international du journalisme. Puis Gilles Vancotte, président du Festival international du journalisme du journal Le Monde, nous présente la programmation de ce festival qui monte en puissance tant au niveau des journalistes internationaux que les invités, aussi bien politiques qu'économiques et chroniqueurs. Côté jardin, c'est l'histoire du tournesol. Je suis avec Jean-Michel Moreau, qui est maire de Couture-sur-Garonne. Couture-sur-Garonne, village qui est vraiment au bord de la Garonne, dont la problématique de la Garonne est quand même relativement importante. Alors je crois que cet hiver, elle a été également encore impactée. Bonjour.
Oui, bonjour à vous tous. Merci de recevoir le maire de Couture.
Alors, Couture, c'est combien d'habitants d'abord ?
370 habitants.
Alors, des 300 habitants, un peu plus de 300 habitants, alors la Garonne, ça fait partie de la vie du village.
Oui, bon, nous sommes dans ce grand méandre, l'un de ces plus grands méandres de cette Garonne normandaise. Et Couture s'est établi depuis de nombreuses années au bord de ce fleuve et y est resté. Malheureusement, petit à petit, les générations ont changé, on a des mouvements de population, on a tout un tas de choses qui sont un peu différentes. On s'habitue à des périodes où l'eau montait moins, et donc tout ça fait que quand on connaît un incident comme on a connu au mois de février, les populations sont quand même un petit peu inquiètes et tendues, quoi.
Alors, sachant que Couture, vous avez quand même connu des périodes encore plus dures, je pense dans les années 30.
Oui, malheureusement. Ouais. Malheureusement, c'est pour ça que je le soulignais à nos autorités, que ce soit les gendarmes ou même à monsieur le sous-préfet, tout ça. Je souligne, il faut essayer de bien percevoir que nous avons eu des inondations très 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 importantes qui ont causé de nombreux dégâts. C'est l'inondation de 1875 où, quand même dans le sud-ouest, il y a plus de 200 morts. C'est l'inondation de 1930 où là aussi il y a eu encore des morts et des maisons détruites. C'est l'inondation de 1952, c'est 1981. Donc, toutes ces grandes inondations sont avec leur immensitude de tous ces dégâts qui sont provoqués par ces tumultes de cette Garonne qui est en furie, quoi. Hein. Revenir au mois de février, l'inondation a été importante, oui, mais c'est une inondation qui revient tous les 15 à 20 ans, avec un débit aux environs de 6500 mètres cubes seconde. Et aujourd'hui, quand on regarde l'histoire et quand on regarde 1930, on est aux environs de 8000 mètres cubes seconde. Donc il va se passer quelque chose si on reconnaissait ces périodes de très grandes inondations et de catastrophes importantes, quoi.
Alors bon, les digues datent pas d'aujourd'hui, puisque c'est depuis très très longtemps qu'on a bâti des digues pour protéger derrière les cultures, oui, et les habitations.
Oui. Oui, non, mais ce réseau de digues, il a été mis en place depuis la nuit des temps, mais il a commencé à s'organiser après l'inondation. Il a été mieux organisé parce que si vous voulez, autrefois chaque petite parcelle, chaque petite ferme avait son petit réseau de digues qui protégeait leur enclos. Aujourd'hui et après l'inondation de 1875, on a commencé à essayer de dompter un peu et de cette Garonne et puis de mettre des digues qui sont assez parallèles au fleuve. Mais malheureusement, il y a des phénomènes d'entonnoirs à certains endroits et il y a des courants qui sont très importants à la perpendiculaire de ces digues. Il y a tout un tas de facteurs aggravants qui font que quand l'eau arrive à ces hauteurs-là, aux environs de 10 mètres à l'échelle de Marmande, naturellement, il y a des ruptures. Et ça, nous qui sommes nés dans ces territoires-là, on sait très bien qu'il faut rester très, très, très vigilant quand l'inondation arrive à ces hauteurs-là, quoi.
Alors, sachant qu'autrefois, les maisons étaient construites sur des promontoires.
Vous laissez un terrain.
Ouais.
Mais bien sûr que les générations précédentes avaient bien compris qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens que nous de communication et de... pour déménager, etc. Ils avaient ce qu'ils avaient de plus précieux, c'était leur bétail et puis c'était leur récolte. Donc ils avaient amassé, et surtout et principalement après l'inondation de 1930, ils avaient autour de leur maison fait ces monticules de terre qu'on appelle des terrains et qui sont le seul moyen de mettre le bétail ou aujourd'hui leur tracteur et puis le matériel agricole sur ces zones qui ne s'inondaient pas, quoi.
Surtout qu'autrefois, la particularité dans la basse plaine, c'était l'élevage garonnaise.
C'était tout simplement toujours pareil. La terre était très riche et chacun avait dans son petit enclos un peu de maïs et de blé. Mais comme ces terres s'inondaient, il faut bien essayer de se remettre dans le contexte de il y a 50 ou 100 ans où les terres n'étaient pas drainées comme on l'a fait après le remembrement. Il y a tout un tas de travaux qui ont changé les choses. Et donc ils n'avaient pas le choix. Ces parcelles s'inondaient encore plus régulièrement que maintenant. Et donc c'était tout simplement pour cela qu'ils avaient dans chaque ferme du bétail.
Oui, tout à fait, avec la variété, la garonnaise.
Oui, voilà, voilà.
Voilà. À Couture, il y a quelque chose qui est particulier, puisque un film de Bernard Lataste a été réalisé là-dessus, c'est que les pirates de la Garonne, c'est une période intéressante, c'est que quand la Garonne charroie des branches, des arbres, etc., au lieu que ça finisse à la mer, au Verdon... c'est toujours c'est ancestral d'aller chercher ces bois qui dérivent.
Ça fait partie de la culture et on en revient toujours pareil à nos générations précédentes qui nous l'ont transmis. Mais ça fait partie d'une culture qui est, au même titre qu'on parlait de l'élevage parce qu'on était dans des zones humides, au même titre nous n'avions pas de parcelles boisées, on n'avait pas de bois pour se chauffer, donc chaque agriculteur ou les uns et les autres à posséder un bateau, et quand ce bois qui était passé en bordure de ce fleuve à des endroits faciles pour l'attraper, on attrapait ce bois pour se chauffer tout simplement. C'était vraiment dans le but de très pratique et très fonctionnel de pouvoir profiter de ce passage de ces arbres et de tout cela. Le sabotier lui attrapait des bois d'aubier dans lequel il faisait ses sabots. Chacun essayait de retirer le plus possible des intérêts de cette situation délicate, quoi.
Ouais.
Mais tout cela a une tendance tout de même à disparaître. Bien sûr qu'on continue ces petits actes de piraterie, mais quand on connaît ces activités-là se font surtout quand ce sont des petites inondations. Mais quand on connaît une inondation un peu plus importante comme celle du mois de février, on a malheureusement trop d'occupations ailleurs et on n'a pas le temps de faire tout cela.
Oui, tout à fait. Oui.
La priorité, c'est de mettre en place notre plan communal de sauvegarde, c'est d'avertir la population, c'est toutes ces choses qui deviennent très importantes et qui, des fois, durent un peu plus longtemps. Bon, là, on a eu de la veine parce que c'est un incident qui n'a pas duré longtemps, mais il y a des fois où ça dure 8 jours et donc ou même plus. En 1955, l'eau elle est sortie pendant 12 jours et notre territoire, nos 750 hectares de la commune sont sous l'eau, et si on veut, nous à Couture, aller chercher du ravitaillement, on est obligé de prendre le bateau sur 3 km pour aller vers Sainte-Bazeille et 3 km pour aller vers Meillan, parce qu'on est vraiment une île, quoi. On est le village, même encore cette année, la totalité du village était recouverte d'eau, avec plus ou moins à certains endroits, mais il y avait de l'eau partout, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, vous êtes carrément.
Et tout ça, c'est un peu difficile à comprendre, quoi.
Vous êtes isolé carrément là.
Mais complètement isolé. Et donc, je le répète, il faut qu'on traverse Garonne avec ses forts courants et puis pour aller chercher de l'essence ou pour aller chercher du lait ou de l'eau. Même si on essaye d'anticiper un petit peu, il manque toujours. Et donc, c'est un petit peu... il faut faire très attention, quoi. Mais là aussi, on a profité de l'héritage l'héritage de nos anciens qui nous ont appris à aller se baigner dans des endroits tranquilles, d'aller à la pêche là où il y avait du joli poisson, et puis de ne pas passer à certains endroits quand Garonne a débordé, quoi.
Tout à fait. Alors, cette année, vous avez été quand même assez impacté, là, le fait de Garonne...
Bien sûr qu'on a été impacté. Sur 220 maisons de la commune, il y en a quasiment 200 qui avaient de l'eau dans le rez-de-chaussée ou dans les cuisines, ou etc. Donc oui, on a été impacté. Mais même s'il y a eu ce coup de digue qui a été un petit peu... qui a aggravé la situation et donc a amené encore plus d'eau dans notre campagne, cette brèche a naturellement un petit peu... aggraver la situation, mais globalement, étant donné que ce n'est pas allé plus loin, on s'en est assez bien sorti.
Oui, parce que vous avez quand même été impacté il y a très très longtemps, hein, mais quand une digue avait sauté, le cimetière chez vous avait été...
Oui, mais malheureusement, dans nos archives, on a encore ces photos de ce cimetière qui a été dévasté par ces forts courants, parce que la brèche était quelques 200 mètres en amont, et donc ça, le fort courant passait là, et malheureusement il y avait eu des dégâts très importants. Mais ça fait partie de ces villages. Et alors il n'y a pas que Couture, que ça soit Jusix ou que ça soit d'autres villages, ou Sénestis ou ailleurs, on a tous ces villages qui ont fait le choix de rester au bord de l'eau, ont la même problématique. Et nous, c'est un peu pire, parce que le village, autant d'autres villages avec l'histoire se sont déménagés et puis sont allés dans des endroits un peu plus loin et se sont éloignés du fleuve, nous, Couture, on est resté toujours contre ce méandre, et puis à nous de faire avec Garonne quand elle déborde.
Oui, tout à fait. La population, parce que par rapport à ça, vous avez averti, et c'est la préoccupation d'un maire, c'est d'avertir tous les nouveaux qui arrivent. C'est souvent, ils comprennent pas trop que Garonne puisse déborder aussi vite, parce que c'est un problème de rapidité. Alors on a reproché peut-être que l'alerte crue, parce que vous avez normalement une alerte crue qui nous signale à quelle vitesse monte la Garonne. Je pense qu'il y avait un problème d'alerte à un moment donné, non ?
Non, mais malheureusement, les problèmes sont nombreux. Il n'y en a pas qu'un. Il y a plusieurs, comme d'habitude, il y a plusieurs facteurs aggravants. Mais toujours est-il que dans ce cru qu'on a connu au mois de février, si on regardait les cartes de vigilance de Météo France, on voyait bien qu'il allait quand même se passer quelque chose. Déjà, le grand public était au courant, tout le monde était au courant que tous les départements de ce bassin versant étaient en orange, et donc on savait très bien qu'il allait se passer quelque chose. Donc les gens qui habitent Couture et qui sont nés là ont pris un peu les devants. On a commencé, dès que les premières alertes déclenchées, les prévisions que nous envoie la préfecture, dès que tout ça est arrivé, quoi, que ça se confirmait réellement, tout le monde avait déjà pris un peu les devants pour déménager, du moins ceux qui sont attentifs. Mais dans notre population de Couture, des 370 habitants qui sont là, il y en a 30% qui font partie de ces nouveaux propriétaires ou locataires de cet habitat. Et donc, ces gens, ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils ne savent pas. Alors, l'eau, elle vient, elle monte à la vitesse que l'on voudra, mais ils sont prévenus. On les prévient, on essaye de faire du mieux que l'on peut. Mais malheureusement, on n'y croit pas. Et donc, tout le monde attend le dernier moment. Et puis, au dernier moment, et bien, c'est trop tard. Et puis, la machine à laver, le frigo s'est noyé. Alors, c'est malheureusement un phénomène récurrent, parce que les gens n'ont pas vécu l'expérience. Je peux vous assurer que demain ou après-demain, si l'eau revenait dans quelques mois, les gens seraient plus attentifs. Alors nous, la commune, depuis qu'il y a eu cette décentralisation et que ce sont les maires qui sont encore plus responsables de l'organisation des secours et de la protection des personnes dans leur village, dans leur commune, depuis plusieurs années, j'ai fait des réunions publiques concernant les inondations. Et souvent, j'entendais la réflexion, oui, mais vous nous parlez des inondations, vous faites des réunions, et puis Garonne ne monte pas. je leur répondais oui, mais ce phénomène reviendra, mais c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, les gens n'y croyaient pas, et c'est le gros problème, il est là, c'est que les gens n'y croient pas, et après on tarde trop, et quand on a trop tardé, ben c'est encore trop tard, quoi. Et donc c'est pour cela que ça provoque de nombreux dégâts, parce que nous avons beaucoup d'appareils ménagers, beaucoup de voitures, tout un tas de choses qui n'existaient pas aussi autrefois. En 1930, je le disais tout à l'heure, ce qui était important, c'était de protéger la récolte et puis le bétail. Et puis, on avait quatre chaises et une table, et puis la cuisinière. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est la voiture, c'est tous nos appareils ménagers que nous avons au rez-de-chaussée, et le congélateur, ben, vous voyez très bien, et naturellement, si on s'en n'occupe pas, et si tout au long de l'année on n'est pas vigilant, eh bien il arrive l'accident qui est arrivé l'autre jour. Hein.
Ouais, tout à fait. Alors, on a GEMAPI, donc l'État s'est engagé, ce sont les collectivités territoriales, notamment ici Val-de-Garonne, qui est en charge de GEMAPI. Donc, avec finalement, il y a des syndicats communaux ou plus ou moins communaux qui gèrent les digues. Mais bon, les digues.
Non, mais. Si on reprend là aussi l'historique de ces ligues, si on reprend tout ça, nos prédécesseurs, et je le répète, étaient aussi malins que nous, et même peut-être plus, ils habitaient sur place et tout se passait régulièrement, et donc ils étaient réunis souvent en associations foncières, et etc. Et donc c'était ou syndicales, et donc ils s'occupaient de leur commune et ils s'occupaient des digues, et ils connaissaient les voisins de Gaujac et de Marcellus et de Meillan, et donc dans le casier concerné qui s'inondait, les gens s'arrangeaient. Mais et donc nous, au niveau de VGA, donc l'AGLO a pris cette compétence il y a déjà 3 ans, il me semble, et cette compétence de GEMAPI va permettre d'avoir une observation plus globale sur les 160 km rive droite et rive gauche, puisque en tout globalement il y a 160 km de digues à régler dans VGA. Donc on aura une vision plus globale, mais il n'empêche que c'est donc les techniciens de VGA qui s'en occupent. C'est là aussi une nouvelle méthode qui va se mettre en place et de nouveaux moyens, puisque il faut qu'on arrive à terminer toutes ces études qui sont en cours, que nous demande l'État, hein, puisque l'État nous surveille un petit peu, surveille tout ce que l'on fait, et donc il y a pas mal de schémas, d'études qui sont prêtes, qui sont mises en place, et ça va aller vers un papier d'intention, c'est des mots barbares, mais en fait tout ça va se mettre en place, et ce n'est qu'au moment où tout sera bien ficelé et bien mis en place que l'État, s'il y a un problème, nous aidera un peu directement, puisque la grande difficulté qu'on vient de connaître avec les ruptures de digues du mois de février, il y a eu, en gros, je crois qu'il y a eu plusieurs, presque 1 km de digue sur 4 brèches importantes. Donc ça a occasionné des frais fabuleux qui ont impacté sur les finances de l'agglo, quoi. Donc tout ça est en cours de règlement, et on espère que la région, l'État et tout le monde viendra aider notre collectivité, parce que sinon ça va mettre à mal un petit peu notre budget global.
Comme moi, vous savez le nombre de navets qu'on voit sur les chaînes ordinaires. Leur grande utilité, c'est de nous éviter tout ce qui est somnifère. Ça, je crois savoir. Je crois le savoir. Ça, je crois savoir. Chat ronronne et fend du gras, la tête entre les pattes. En regardant un peu, on trouve beaucoup mieux à gauche comme à droite. Et ça, je crois savoir. Je crois le savoir. Ça, je crois savoir. Les soucis, les problèmes, n'en jetez plus, la cour est pleine. déclaré, juste envie de se marrer. Les fadas, les tordus, la cour est pleine, n'en jetez plus. La vie c'est une drôle d'histoire, ça je crois le savoir. J'ai quelques bons amis qui accourent quand je crie à table et à la nôtre. Des gens surentraînés qui ont, c'est confirmé, un bras plus fort que l'autre. Pourquoi je crois savoir, je crois le savoir. Pourquoi je crois savoir. Y a une fille à Langui, au milieu d'un grand lit, qui attend que j'appelle. Si j'étais un guerrier et le monde à sauver, je commencerai par elle. Ça, je crois savoir. Je crois le savoir. Ça, je crois savoir. Les soucis, les problèmes, n'en jetez plus, la cour est pleine. On n'a rien à déclarer, juste envie de se marrer. Les fadas, les tordus, la cour est pleine, n'en jetez plus. La vie c'est une drôle d'histoire, ça je crois le savoir. C'est ma chanson pour Jacques, celui qui se la coule dans son jardin de Corse. Écrite à sa manière, sans me faire une ampoule, sans me faire une entorse. Et ça, je crois savoir.
Une des particularités, c'est que la Garonne étant tellement présente que vous avez inauguré, je crois que c'est la semaine dernière, Fou de Garonne.
Oui, ben Fou de Garonne, et donc là aussi, j'en reviens à l'agglo, l'agglo qu'on peut remercier. L'agglo a investi 1 200 000 euros sur 3 ans pour rénover ce site qui avait été créé en 2006, un site que vous connaissiez qui s'appelait Jean de Garonne. Aujourd'hui, il s'appelle Fou de Garonne parce que on est vraiment amoureux de ce Garonne, et c'est dans ce sens qu'il faut le voir. Et donc on l'a inauguré sans beaucoup de flanflon, parce que toujours pareil, avec cet aspect sanitaire, ça nous complique un petit peu les choses. On espère qu'on le fera un petit peu mieux. Mais donc ce site aujourd'hui est doté de nouvelles salles, et donc ça va nous permettre là aussi de pouvoir accueillir un nouveau public qui sera sensibilisé autour de ce phénomène des inondations, moins qu'autrefois, parce qu'autrefois c'était quand même très axé sur l'inondation de 81. Là c'est un petit peu différent dans la salle principale, qui est une salle où on découvre des images avec une forme d'image nouvelle du mapping, et donc ça, tout ça et demandera, et nos visiteurs nous le disaient déjà, sont très surpris agréablement de voir cette nouvelle version des Fous de Garonne. Et aussi on a un bateau où on embarque dans un bateau avec des casques avec de la réalité virtuelle, et donc on va voyager avec un bateau en pleine période d'inondation quand Garonne est très haute, et donc c'est assez
remarquable.
Sensible. Oui, parce qu'on voit ce Garonne depuis le milieu, ces berges qui défilent, on passe sous le pont, il y a tout un tas de que le public n'imagine pas, quoi.
Ouais, tout à fait. Alors, on est quand même dans une scénovision moderne. Et alors une des particularités, c'est que on parlait tout à l'heure que couture, les gens, quand vous êtes sur une île, c'est le bateau. Vous avez créé quand même les sauveteurs de couture.
Oui, mais là, c'est une association. Mais là, c'est pareil. Notre association a été fondée après l'inondation de 1981, mais elle existait bien avant nous. C'est comme l'histoire des digues, c'est comme l'histoire. Vous savez, nous, on a pris le relais. L'association qui a été formée a permis tout simplement de matérialiser ça, que ça soit un peu plus réglo pour les assurances et tout cela, puisque aujourd'hui, chaque fois qu'on fait quoi que l'on veuille, il faut que ça soit très encadré. Et donc on a formé cette association. Ce sont les gens et des bénévoles du village qui sont les uns des patrons, des autres des agriculteurs, des autres tout le monde de tout le tissu social de notre village. Et tous ces gens viennent et aident notre population et en particulier un peu plus les personnes âgées parce que elles, les pauvres ne peuvent pas déménager. Alors donc on essaye de leur donner un coup de main, mais il va de soi que ce n'est pas 14 sauveteurs plus la réserve communale qui va aller régler tous les problèmes des 200 familles que nous avons dans le village, vous comprenez. Donc il faut que chacun aussi se prenne en main, mais ils ont un rôle important au cœur du village parce que ils entretiennent les bateaux. Là, on a acheté des moteurs parce que je disais qu'on s'approchait d'un événement. Et alors tout ça, c'est de l'entretien qu'il faut faire toute l'année. Donc c'est eux qui ont en charge d'entretenir cela, les gilets de sauvetage, les embarcations. C'est un travail qui se fait tout au long de l'année et c'est pas au bout de 5 ou 6 ans ou 10 ans que l'eau n'est pas venue qu'on doit aller vérifier les bateaux, s'ils marchent, etc. quoi. Voilà, c'est un rôle très important.
Alors, ce qui est intéressant à Fou de Garonne, c'est qu'on va trouver l'explication des différents types de crues. On a des crues à l'automne, des crues au printemps, et selon le type de crue, on va avoir des noms ou des histoires différentes. C'est intéressant, ça.
Oui, mais non, mais on en revient, là aussi, cette météo qui est un élément aujourd'hui de plus en plus fantastique et qui nous aide énormément. Ces crues qui étaient ou méditerranéennes ou océaniques, c'est des perturbations qui arrivent de ces zones-là et qui vont engendrer ou qui vont déverser des millimètres d'eau jusqu'à quand il va y avoir une crue importante. Et donc notre bassin versant de Garonne est très 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 important et naturellement si un jour il y avait une conjugaison d'une pluviométrie simultanée sur tout le bassin versant, on connaîtrait certainement une inondation encore plus importante qu'on n'a pas encore inscrite dans notre histoire. Alors vous voyez que tout ça est très important et c'est pour cela qu'à l'époque, et on en revient encore aux sauveteurs, à l'époque, ils avaient créé une maquette qui justement est très pédagogique et permet aux enfants et même aux adultes de justement d'appréhender cette forme de notre terrain avec la vallée, puis avec le fleuve, les courants, etc., les méandres, et puis aussi cette partie météorologique et cette partie aussi de prévision des crues. Donc tout ça est installé dans une salle que l'on peut visiter dans Fou de Garonne.
Oui, tout à fait. Donc, on a vraiment toute l'histoire de la Garonne et ses crues, et puis pas que, puisqu'on a aussi la faune, la flore.
Il y a aussi une salle qui, là, on va découvrir avec la 3D, on va découvrir effectivement ces poissons en 3D qui viennent nous heurter en tant que spectateurs, mais ça c'est la magie de la 3D qui fait ça. Et donc on parle effectivement justement de toute cette chose qu'on ne voit pas et qui est sous l'eau et qui est tellement proche de nous, mais on en est souvent inconscient, quoi.
Ouais, tout à fait. Alors, à Couture également, depuis 3 ans ou 4 ans maintenant, pendant quelques jours, Couture devient le centre du monde au niveau du journalisme, puisqu'il y a le Festival international du journalisme. Alors, comment est venu ce festival ?
Donc ce festival, ça va être donc la cinquième édition. Ce festival est tout simplement arrivé parce qu'à Couture, nous avions une personnalité du journalisme qui s'appelait Monsieur Chaffanjon. Monsieur Chaffanjon était un journaliste qui travaillait, qui était directeur de France Info et puis de France Bleu, et donc et qui habite une maison à Couture, qui a connu des inondations en 2003 et puis un petit peu avant. Et donc cette personne un jour disait à ses collègues, si vous faites une manifestation, allez voir à Couture, c'est très intéressant, etc. Malheureusement, entre temps, il est décédé. Par le hasard des choses, une personne, Madame Laurence Corona, est venue un jour à Couture, a vu ce site et a dit on va faire un festival du journalisme international à Couture. Qui devait s'axer principalement autour des séchoirs à tabac, autour de Garonne bien sûr, mais malheureusement c'est à l'époque où il y a eu cet attentat à Nice, et donc on a recentré toutes les activités autour du village, et donc là nous avons continué cette année pour la cinquième fois, on va avoir plusieurs lieux de conférences qui sont dans des endroits très au milieu des arbres, au milieu d'un jardin, au milieu, vous voyez, à de divers endroits, bien sûr en bordure de Garonne, sur la place de la Cale, dans l'église, dans de nombreux locaux, ainsi que dans les écoles, on accueille aussi les enfants. Donc tous ces lieux-là vont permettre d'avoir des lieux de rencontres, bien sûr, et de conférences, et on y parlera de nombreux sujets d'actualité.
Oui, c'est ça, parce que là, il y aura 3 jours, hein, c'est du 9 au 11 juillet, 3 jours de débats, rencontres, ateliers, avec pas mal de personnalités qui vont venir à Couture. Alors déjà, vous avez eu l'occasion de rencontrer pas mal de monde déjà à Couture, depuis le temps.
Oui, bon, écoutez, c'est pour ça que c'est vraiment le hasard que ça se passe à Couture, et on a aussi beaucoup de veines que les collectivités territoriales, que ça soit VGA, que ça soit le département et la région, aident à ce projet, parce que avec toutes les difficultés, heureusement que ces grandes collectivités nous aident, parce que on peut les remercier d'ailleurs, parce que autrement on n'en serait pas où en est ce festival, quoi. Parce que il y a des aspects de sécurité, il y a tout un tas de choses qu'il faut mettre en place et qui sont aujourd'hui coûteuses. Mais bon, grâce à eux, ça permet de pérenniser ce festival, et qui j'espère continuera, quoi.
Ouais, tout à fait, parce que dans ce festival, c'est le journal Le Monde, mais pas que.
Mais enfin, c'est quand même principalement le journal Le Monde, avec tout son groupe qui a plusieurs journaux, et là, je ne vais pas m'engager là-dedans.
Ouais, L'Obs, Télérama, Courrier International.
Voilà, voilà, L'Obs et puis tout ça. Donc, c'est tout ce groupe Le Monde qui fait que il y a des journalistes de tous ces secteurs de ce groupe qui viennent présenter des sujets particuliers, quoi.
L'année dernière, ils ont fait un vidéoconférence, puisque malheureusement, c'était pas possible. C'est passé d'ailleurs, c'était enregistré, c'est passé sur Radio Entre-deux-Mers, dans Parlons Terroir, puisqu'il y a eu plusieurs thématiques, dont certaines vont revenir un petit peu, là, puisque à cause de la crise sanitaire, on n'a pas pu avoir ce festival. Donc, ça se prépare en souhaitant qu'on ait du beau temps, quoi.
Oui, mais écoutez, le beau temps est la première de toutes les priorités quand on fait des spectacles en plein air. Bon, on vient de connaître une période pluvieuse, donc on espère qu'elle va être suivie d'une période de beau temps, et puis on croise les doigts, et puis tout se passera bien. Mais c'est vrai que sans ce beau temps, ça sera gâché, parce que dans toutes les rues du village, le village est quasiment fermé, le cœur du village est... On sera obligé d'ailleurs, pour rentrer dans le village et pour prendre ses tickets d'entrée et ses passes, on sera obligé d'avoir le test PCR ou la vaccination. Il va y avoir un contrôle, et donc l'enceinte du village est complètement fermée. Donc on pénètre et toutes les rues du village seront décorées de tout un tas de choses qu'il faudra venir découvrir et qui seront surprenantes à voir.
Ouais, tout à fait. Avec une Garonne en profil qui sera... On pourra se baigner, alors, je crois.
Oui, là aussi, Garonne, depuis le début, on a pendant ce festival, depuis la première année, on a mis en place une baignade éphémère qui on met une baignade gardée, on installe tout un tas de le matériel réglementaire pour mettre cette baignade en place. Il y a naturellement les maîtres nageurs, il y a eu des analyses d'eau, il y a tout un processus qui se met en place et pour là aussi correspondre à ce que nous demande l'ARS et tout cela. Donc il faut que ça soit conforme aux obligations actuelles.
Oui.
C'est vrai que ce lieu, ce lieu de notre ancien, de cet ancien port de couture, de cette ancienne cale et de cette plage est quand même très, très agréable et beaucoup de visiteurs qui viennent dans ce village nous le font remarquer, quoi, que c'est un lieu qui est remarquable.
Hein. Ouais, très paisible en plus. Hein.
Voilà, c'est... voilà.
Et le fait en plus de pouvoir manger, les repas se font en bordure, hein, donc.
Oui, tout à bon. Fait. On va être, on aura. La possibilité tout en mangeant de voir sauter les poissons qui sauteront sur Garonne.
Alors au cours de ce festival international du journalisme, je crois qu'il y a des soirées organisées par différents.
Oui, effectivement, nos cofinanceurs sont présents sur le site et donc ils vont avoir des animations et le département, la région ainsi que l'aglo, VGA, va tenir des stands et va nous présenter leurs produits, les produits locaux, du terroir et puis certaines animations qu'ils vont organiser. Il y aura aussi, c'est eux qui le font, des soirées musicales et des soirées de cinéma en plein air qui vont se faire le vendredi et le samedi. Donc il y a plusieurs animations de ce genre-là qui vont être elles aussi un petit peu faites en nocturne pour le public qui sera là.
Oui, c'est-à-dire que la journée c'est surtout des débats. Des rencontres, des ateliers, et le soir, c'est plus un côté festif.
Tout à fait, oui, il y a sur un site, il y aura donc ce fameux cinéma en plein air, et là, je pense que c'est le département et VGA qui en ont un peu la charge, et aussi, il y aura des animations sur la place de la Cale, avec des petits concerts, mais toujours pareil, à cause des contraintes sanitaires, ça se terminera aux environs de 23h, mais c'est plutôt des périodes de détente.
Et alors vous parliez de l'église, bon, qui a été impactée, puisque l'église, malheureusement, elle a été aussi, elle a connu la crue. Il y a également, l'église sert aussi de décor pour ce festival.
Oui, oui, à l'intérieur, donc, rester un petit peu dans l'état et avec les peintures de Mazuki et de toutes ces peintures qui ont été faites à l'époque, elle nous sert... de lieux de rencontre dans lequel là aussi mais c'est plus souvent des films qui se terminent, oui, par des débats.
Oui, c'est ça. Ça fait un peu salle de cinéma.
Un petit peu, oui. Ouais.
Tout au long de l'été, fois c'est pas le festival du journalisme, mais c'est Fou de Garonne, vous avez des manifestations qui ont lieu assez régulièrement.
Oui, tous les mardis soirs là à partir du 13 juillet, il y a des activités en bordure de Garonne parce que nous avons installé une guinguette et cette guinguette offre des rafraîchissements, enfin offre, on peut prendre des rafraîchissements ou des repas tous les mardis soirs. Là.
Voilà.
Avec des petits concerts, avec des...
Ouais, très sympathique. Ouais.
Des animations musicales.
Très bien. Merci, Michel Moreau.
Merci à vous de m'avoir permis de vous présenter notre très beau petit village.
Voilà.
Allez.
Au revoir.
Merci à vous. Au revoir, monsieur.
C'est le silence qui se remarque le plus. Les volets roulants, tous descendus. De l'herbe ancienne dans les bacs à fleurs, sur les balcons. doit être hors saison. La mer, quand même dans ses rouleaux, continue son même thème, sa chanson vide et têtue. Pour quelques ombres perdues sous des capuchons, on doit être hors saison. Le vent transperce ces trop longues avenues. Quelqu'un cherche une adresse inconnue. Et le courrier déborde au seuil des pavillons. On doit être hors saison. Une ville se fane dans les brouillards salés. Oh, la colère océane est trop près. Les tourments la condamnent aux écrans de fumée. Et personne ne s'éloigne. Tout prendre, les murs, les jardins, les rues. On pourrait mettre aux boîtes aux lettres nos prénoms dessus. Ou bien peut-être un jour les gens reviendront. On doit être hors saison. La mer, quand même, dans ses rouleaux, continue son même thème, sa chanson vive. Oh, où es-tu? Tout mon courrier déborde au seuil de ton pavillon. On doit être hors saison. Une ville se fane dans les brouillards salés. Oh, la colère océane est trop près. Les tourments la condamnent aux écrans de fumée. Et personne ne s'éloigne du quai.
Alors, je suis avec Gilles Vincotte, qui est président du Festival international du journalisme. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous n'êtes pas la première édition du Festival international du journalisme. Il monte en crescendo, là.
Ah, écoutez, il monte crescendo et les informations qu'on a aujourd'hui sur la billetterie montrent que les festivaliers sont bien au rendez-vous de 2021. Je pense que à la fois le fait que l'édition 2020 ait dû être reportée et puis tous ces confinements et mesures sanitaires qu'on a dû respecter ces derniers mois ont suscité une grande envie de l'ensemble des festivaliers, mais aussi des invités et de nous-mêmes, l'équipe d'organisation, de se retrouver à Couture pour là on s'était quitté finalement en 2019, donc ça remonte à deux ans, pour pouvoir à nouveau débattre de l'actualité, des médias, du journalisme, de l'info, et donc je pense qu'on va avoir beaucoup de monde.
Oui, sachant que, comme disait Monsieur le maire, il y aura une obligation d'avoir un pass sanitaire pour entrer dans le festival.
Oui, alors on n'a pas le choix. Hein. C'est une mesure qui a été prise au niveau national. Tous les événements qui rassemblent plus de 1000 personnes par jour et c'est le cas du Festival de journalisme, sont obligés d'appliquer le pass sanitaire. Ce qui veut dire que à l'entrée du festival, quand les spectateurs viendront prendre leur billet, on sera obligé de leur demander de nous présenter soit un certificat de vaccination de plus de 14 jours, d'attendre plus de 14 jours, soit un test antigénique ou un test PCR de moins de 48 heures, soit un document établissant qu'ils ont eu un Covid il y a plus de 15 jours et moins de 6 mois.
D'accord.
Voilà. Et il y aura pas, on ne pourra pas faire d'exception parce que c'est vraiment des règles au niveau national qui s'appliquent à nous, organisateurs. On n'est pas forcément ravis de devoir les appliquer, mais en tout cas, on va s'y plier. D'autant plus que on est, si j'ai bien compris, le premier festival à avoir lieu en Lot-et-Garonne cet été, ou en tout cas, une des premières manifestations. Donc, autant vous dire que je pense que les pouvoirs publics auront l'œil sur nous. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur.
Tout à fait. Alors, je crois que vous avez plusieurs thématiques. Il me semble qu'il y a 7 thématiques, dont certaines qui ont été abordées un petit peu l'année dernière en visioconférence, qui ont été peut-être reprises, mais il y en a d'autres.
Oui, alors il y a effectivement, comme le festival n'a pas eu lieu en 2020, on avait commencé à travailler sur certaines thématiques et on en a gardé certaines pour 2021, des thématiques qui donc avaient été abordées lors de petites visioconférences au moment du confinement, du premier confinement, mais qui n'ont pas été vraiment traitées, et en tout cas pas devant les festivaliers. Donc effectivement, des thématiques comme une thématique qui s'appelle « Le peuple a-t-il toujours raison ?», une thématique sur « Agriculteurs et consommateurs, même combat ?», point d'interrogation, donc sur le modèle agricole, une thématique sur la blessure coloniale aussi, qui est tout aussi valable cette année qu'elle l'était l'an dernier. Par contre, il y a des nouvelles thématiques qui sont arrivées, parce qu'avec la crise sanitaire qu'on a traversée, il a été évident qu'elle allait marquer, qu'elle allait même être le fil rouge de ce festival. Et donc, on a une thématique sur le complotisme qui s'est véritablement envolé pendant cette période. On essaiera de comprendre les ressorts de ce phénomène. On a une thématique sur les rapports entre science et information. Donc, on parlera de l'information scientifique, des experts, de la confiance qu'on peut faire ou de la méfiance qu'il faut avoir envers certains experts et certaines informations. Et puis, certaines thématiques également, comme celles qui étaient prévues sur la collapsologie, la fin du monde, ont été revues à la lumière de la pandémie, parce qu'effectivement, cette pandémie, elle nous fait aussi nous poser des questions sur nos sociétés. Et est-ce que c'est un signal d'alerte et que d'autres accidents aussi graves nous attendent? C'est une question qu'on se posera avec nos invités et les festivaliers.
Je vois, il y a également un média, le casse-tête de la diversité, c'est...
Absolument, parce que au festival, les thématiques sont à la fois des thématiques sur l'actualité, mais également des thématiques sur les médias et le journalisme. Et on a voulu se poser la question de la difficulté que nous avons, nous, dans les médias, à avoir la même diversité dans nos rédactions qu'on trouve dans la population française. Donc, il y aura effectivement une thématique qui sera consacrée à cette question de la diversité dans les médias. Et on se demandera, est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il est important, et si oui, comment faire pour que on ait dans les médias, on retrouve une population qui est qui soit aussi diverse que la population française aujourd'hui. On se posera des questions aussi sur la place des personnes handicapées dans les rédactions, sur les accents. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un handicap pour trouver sa place dans une rédaction quand on est journaliste? Donc voilà, il n'y a pas que la diversité, on va dire, sociale, il y a aussi une diversité dans d'autres dimensions, et on se posera toutes ces questions-là pendant le festival.
Alors, quand on dit Festival international du journalisme, donc c'est le groupe Le Monde avec plusieurs revues de presse, plusieurs presses.
Oui, plusieurs partenaires. Alors, on a des partenaires qui sont les médias régionaux, comme France 3, Nouvelle-Aquitaine et Sud-Ouest, hein, qui sont évidemment des relais absolument indispensables pour un événement comme le nôtre et qui de plus en plus s'implique de plus en plus dans ce festival. Et puis on a effectivement des partenaires internationaux qui animent notamment un rendez-vous quotidien qui s'appelle le kiosque international sur le point de vue de la presse internationale sur l'actualité française en grande partie. Et donc des quotidiens comme Le Temps, qui est un quotidien suisse, comme El País, le quotidien espagnol, et pour la première fois également The Guardian, le quotidien britannique, et la Süddeutsche Zeitung, qui est un quotidien allemand, nous ont rejoints, et donc on a ces partenaires qui donnent toute sa dimension internationale au festival.
Et en plus de là, vous avez de nombreux invités, là.
Alors, on a près de 150 invités, mais donc ça, c'est devenu presque une habitude, parce que le festival, effectivement, c'est l'occasion de rencontrer des journalistes, mais aussi de recevoir des acteurs de l'actualité, Et puis aussi des chercheurs, des universitaires. Donc on en aura qui viendront de partout, mais aussi du Lot-et-Garonne et de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un mixte de participants de toute région et même de différentes nationalités. Même si cette année, évidemment, avec la crise sanitaire, il y aura un peu moins de participants étrangers. Mais il y en aura quand même. Et donc, parmi les invités, on peut citer des grands noms de l'actualité, comme Christiane Taubira, qui sera là pendant les 3 jours du festival. Il faut le souligner, comme également Jean-Luc Mélenchon, qui viendra passer une journée au festival. Et c'est un petit peu cocasse, parce que Jean-Luc Mélenchon critique beaucoup les médias. Donc, on est impatient de le recevoir dans un festival de journalisme.
Absolument.
Mais également Étienne Klein, qui est donc un physicien et philosophe des sciences. Et puis Juste Philippot, qui est le réalisateur de ce film qui rencontre un grand succès, qui s'appelle La Nuée, qui est sorti il y a quelques jours et qui a été tourné dans le Lot-et-Garonne.
Oui, enfin, voilà, qui a été tourné en Irak, oui, absolument, Lot-et-Garonne.
Voilà, exactement. Mmh. Exactement. Et donc, voilà, donc des personnalités du monde politique, du monde artistique, du monde associatif, et puis évidemment des journalistes de renom, comme Natacha Polony, qui est la directrice de la rédaction de Marianne et une débatteuse, une chroniqueuse sur France Inter également, comme Florence Omnas, qui travaille au Monde et qui est maintenant une habituée du festival, et qui animera notamment une table ronde sur couture et les inondations.
Oui.
Je ne vais pas vous apprendre que Couture a été frappée ces années par les plus grosses inondations depuis 40 ans, comme pas mal de communes du Lot-et-Garonne. Mmh. Et donc, on s'intéressera au regard qu'ont porté les médias sur ces inondations, qui est souvent assez décalé avec le ressenti des couturins. Donc, ça sera intéressant de confronter justement ces points de vue. Et puis également des journalistes de radio et de télé, comme Thomas Soto, ou des journalistes nouvelle génération qui appartiennent à des médias numériques, comme Rémi Duisine de Brut, ou encore un youtubeur très connu des jeunes générations qui s'appelle Hugo Travers, dont le pseudo sur YouTube est Hugo Décrypte, et qui est très populaire chez les jeunes et qui est journaliste. C'est une nouvelle forme de journalisme et on s'y intéressera.
Donc de nombreux ateliers tout au long de ces 3 jours, avec en soirée des animations.
Oui, effectivement, des ateliers, des expositions, il y aura 6 expositions, dont une réalisée par les couturins eux-mêmes, puisque ce sera justement une exposition sur la crue de février dernier et les témoignages qu'ils ont pu recueillir. Il y aura également des projections. Je vous rappelle que l'église de couture devient le temps du festival, une salle de projection, elle nous est prêtée par le diocèse. Et donc, beaucoup de choses dans la journée, beaucoup de propositions. Et le soir, un temps plus festif. Alors évidemment, cette année, à cause de la crise sanitaire, on n'aura pas de grands concerts d'enfants et de DJ set comme d'habitude. On aura des concerts un peu plus calmes, mais il y aura des concerts, notamment un concert d'Éric Seva, le joueur et compositeur de jazz de Marmandais.
Oui.
Également un spectacle de Yannick Jolin, qui est conteur, comédien et musicien, qui viendra parler des langues régionales. Et puis des projections, une projection en plein air, celle du film dont je vous parlais, La Nuée. Et puis des lectures, au clair des lectures en fin de soirée, également des rencontres au clair de lune. Le festival dure tous les soirs jusqu'à minuit. Et on finira en beauté, je ne sais pas, mais en tout cas par la finale de l'Euro 2021 de football, qui sera projetée sur grand écran sur la place de la Cale le dimanche soir. Bon, malheureusement, il n'y aura pas l'équipe de France, donc on ne pourra pas fêter une victoire française comme on l'a fait en 2018, mais on espère qu'il y aura une belle affiche quand même.
Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, mais il faut souhaiter qu'on ait du beau temps, parce que là, on passe une période un peu orageuse, mais je pense que le beau temps va s'installer.
Je le souhaite. Alors, je vous avoue que tous les matins, je regarde Météo France,
oui.
Je regarde Couture sur Garonne,
oui.
Et pour le moment, les prévisions sont très bonnes. On ne devrait pas avoir de canicule, et pour le moment, on n'annonce pas d'orage. Bon, on est encore à quelques jours du festival, mais je croise les doigts pour que les conditions soient aussi optimales que celles qu'on nous promet.
Oui, surtout qu'en février, il y avait 2 mètres d'eau là où il va y avoir le festival.
Exactement, on aura du mal à le réaliser. Oui,
ouais, tout à fait. Mm. Bon, mais très bien, je vous remercie Gilles Vincotte.
Merci à vous.
Et voici Côté Jardin avec Patrick.
Thank you.
Aujourd'hui, je vais vous parler du tournesol. Avoir son air bon enfant, joufflu et briefé, qui aurait pu prévoir que cet annuel traverserait les époques et les océans et devenir l'une des plantes les plus cultivées au monde. En effet, rond et doré comme un soleil, Helianthus annus tourne à 180 degrés sur son axe en quelques heures pour suivre la course de son astre doré. C'est un exemple parfait de phototropisme dû à un allongement de la tige côté ombre et qui permet à la lourde fleur d'être constamment face à la lumière pour faire mûrir ses graines. Même si la science l'a expliqué au XIXe siècle, ce phénomène n'avait pas échappé aux Aztèques qui offraient la fleur aux dieux du soleil et de la guerre. Ilizopichi, ces cérémonies décrites dans le Codex de Florence au XVIe siècle ont été confirmées depuis par des recherches archéologiques qui attestent la domestication du tournesol plus de 3000 ans avant notre ère. Mais on ne sait pas qui fut les premiers à cultiver, les Mexicains, les Andins ou les Amérindiens. Car la plante fait aussi partie du mythe de la création chez les Onanga, une tribu apparentée aux Iroquois, et entre dans la pharmacopée traditionnelle de nombreux autres, des Dakota aux Unis. Bien avant le maïs, l'haricot et les courges. Employées pour ses propriétés alimentaires, médicinales et tinctoriales, les graines donnent du bleu, les pétales du jaune. Cette panacée tombe dans le panier des conquistadors espagnols qu'ils introduisent en Europe vers 1510. Dans le jardin botanique de Madrid, on l'admire, on se mesure à lui, qui est si haute taille et de si belle figure. Certains spécimens atteignent plus de 5 mètres. Bref, c'est une plante ornementale à fort pouvoir symbolique. En 1662, le duc de Bouillon se plaignait à évoquer au passage de Louis XVI comme un courtisan devant le roi soleil. Ce n'est en 1716 que le Britannique Bunyan obtient l'autorisation d'extraire l'huile des graines. On tient là d'une plante oléagineuse de premier plan, d'autant qu'elle ne figure pas sur la liste des corps gras interdits par l'Église orthodoxe durant le carême. Les Russes s'en emparent et Bukharov entame un programme de sélection et de culture intensive. C'est en 1969 que l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, découvre le caractère génétique qui permet de doubler la production mondiale. Mais toutes les médailles à son revers, et quand en 1992 les cultures américaines sont décimées par la rouille, devinez qui les sauve. Eh bien, c'est les graines indigènes collectées par Native Seed auprès des fermiers indiens d'Uzapaoué. La culture du tournesol est largement répandue dans tout l'ensemble des continents. La récolte mondiale de graines de tournesol s'élève autour de 40 millions de tonnes. Les principaux producteurs sont l'Ukraine, bien sûr, et la Russie, donc qui vient dès le départ avec l'Église orthodoxe qui avait autorisé, l'Argentine, la Chine, et ces quatre pays détiennent plus de 50% de la production mondiale. Ensuite, on trouve la France, l'Inde, les États-Unis, la Roumanie, l'Hongrie et l'Espagne. Le tournesol est utilisé pour son huile, extraite des graines, très appréciée pour son équilibre en acide gras, surtout l'acide linoléique, qui est un acide gras essentiel. Il y a d'excellentes qualités diététiques, par exemple pour combattre le diabète, également une bonne source de vitamine E. L'huile de tournesol entre la composition des margarines, mais aussi sert à la fabrication de savon et de cierges. On l'utilise souvent pour mettre comme l'huile dans les pâtes ou d'autres aliments. Graines de tournesol décortiquées et crues soient vendues notamment en vrac dans les magasins bio et se consomment comme anka ou accompagnées de salades. Elles peuvent aussi être torréfiées, notamment autour du bassin méditerranéen. On les connaît sous le nom de pipas en Espagne. Le tournesol est utilisé pour l'alimentation animale, soit comme fourrage ou par des résidus de trituration appelés tourteaux, riches en protéines, dont une acide aminée très recherchée dans l'alimentation du bétail, la méthionine. Les graines entières sont appréciées pour nourrir les perroquets et d'autres oiseaux de volière. Le tournesol est aussi une excellente plante mellifère. Elle est également cultivée comme plante ornementale pour ses capitules spectaculaires avec des tons qui vont du jaune à orange. Également utilisée comme agrocarburant, c'est utilisé pour les moteurs diesel. Les tiges de tournesol ont des qualités pour faire de bons isolants pour les bâtiments. Enfin, le tournesol est une plante dépolluante. C'est notamment hypercalculateur des radionucléides de strontium, d'uranium et de nickel 115. Pour finir, la légende tournesol. On dit qu'il y a des milliers d'années, le monde est partagé entre le soleil, c'est-à-dire le jour, et les étoiles et la lune, la nuit. Ainsi donc, la Terre connaissait une partie dominée par les ténèbres et une autre maîtrisée par le soleil, la lumière. Mais le fort désir de la lune était que l'obscurité puisse vaincre de cette manière et allait devenir la maîtresse de la Terre, tandis que le soleil serait asservi. Par conséquent, entre la lune et le soleil, éclata la guerre. Le soleil avait une fille qui s'appelait Héliante, mais elle ne ressemblait pas aux autres à son âge, pas seulement grâce à sa beauté, sans pareil, mais surtout à sa vaillance. Elle propose donc à son père de lutter l'un après l'autre contre la lune. « Nous devons vaincre, dit-elle, sinon nous serons enveloppés par les ténèbres. »« J'en suis d'accord, répondit le soleil inquiet. « Mais n'oublie pas que je suis vieux et qu'il me manque la force de lutter. »« De plus, elle a aussi de son côté les étoiles et leur victoire est presque assurée. »« Mais c'est moi qui vais lutter près de toi, l'encouragea Héliante. » « Non, ma fille, c'est trop dangereux. De toute façon, nous n'aurons aucune chance de réussir, » ajouta son père. N'écoutant pas son conseil, Héliante participa au combat comme un homme. À la suite d'une bataille acharnée, le soleil fut déclaré victorieux. C'est alors que sa fille révéla son beau visage. La lune vit ainsi que son vainqueur avait de longs cheveux blonds, comme Zépidore, flottant sur ses épaules et de très beaux yeux noirs. Furieuse, elle lui lança un sortilège. « Que tu sois à tout jamais une plante, que le tournesol devienne ton nom, et quand il se fera soleil, que tu regardes toujours vers ton père. » À cause du maléfique de la lune, la fille se métamorphose en une fleur de toute beauté. Les cheveux blonds se transformaient en grands pétales jaunes et ses yeux noirs en semences. Jusqu'à nos jours, le sortilège n'a pas été rompu, et il y a métamorphosée en fleurs, regarde encore et toujours vers son vieux père, le soleil. C'était l'histoire du tournesol.
C'était Côté Jardin avec Patrick.
Voilà, l'émission Parlons Terroir s'achève sur Couture sur Garonne avec Jean-Michel Moreau, maire, Gilles Vancotte, président du Festival International de Journalisme. Côté Jardin, l'histoire du tournesol. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.